Chapitre 8e, dans la gueule du loup. Il était 9 heures du matin à peu près quand ils arrivèrent devant la grille de la villa où habitait le commandant Remondin. Par un fait étrange, un hasard digne de remarque, la villa toucha une autre villa, beaucoup plus modeste d'aspect, qui s'appuyait pour ainsi dire du dos à elle. Et c'est à la porte de cette seconde villa que précédemment nous avions vu les 3 bicyclettes appuyées le long du mur sur le trottoir. Martin Numa, toutefois, ce matin, ne pouvait tirer aucun parti de ses observations. Il arrêta donc la petite auto devant la porte du commandant. Puis il sauta prestement sur le trottoir et il sonna à la porte donnant sur la rue. On fut quelque temps à répondre. Et la première porte qui s'ouvrit ne fut pas celle du commandant, mais celle de la villa voisine. Une bonne femme, une bonne de campagne, rude, fortement taillée, figure rébarbative sous un bonnet qui lui cachait la moitié du visage, parut. Elle tenait un panier à la main et s'en allait, selon toute probabilité, au marché. En sortant de la maison, elle regarda machinalement du côté de Martin Numa. Le roi des détectives, lui aussi, regardait cette robuste femme, ses membres carrés. Et il se rappela que, tout dernièrement, il avait eu affaire à une bonne, robuste, forte, aux épaules carrées, aux mains énormes. Cette bonne était celle qui défendait la porte de la bonne rentière de la rue du Débarcadère. La rentière qui avait perdu son diamant rose. Or, cette bonne paysanne de ce matin n'était pas sans grande ressemblance avec la bonne de la rentière. Malgré le bonnet, malgré l'accoutrement plus fruste, l'œil de Martin Numa ne pouvait s'y tromper. Il reconnut le personnage. « Allons, pensa-t-il, c'est l'individu qui, dans la bande, joue les vieilles femmes de service. » Martin Numa sonna de nouveau. Cette fois, une croisée s'ouvrit et la tête d'un homme passa. Le domestique, sans doute. « Vous demandez ?» questionna cet homme à Martin Numa. « Le commandant Remondin, je vous prie. »« Je ne sais pas si le commandant est là. Donnez-moi votre nom. »« Veuillez dire au commandant que c'est le peintre de la forêt. Il saura ce que cela veut dire. » La croisée se referma. Le domestique disparut. Dans la maison se fit un remue-ménage qui prouvait quelque peu d'effarement. La visite de Martin Numa n'était certainement pas attendue ce matin. D'ailleurs, le roi des détectives comptait bien sur cela. C'est ce qui même l'avait engagé à venir. Enfin, après quelques minutes, une chaîne fut détachée de l'autre côté de la porte et cette porte finit par s'ouvrir. « Entrez, monsieur, » dit le domestique à Martin Numa. « Le commandant va venir dans un moment. »« Dites au commandant de ne pas se déranger. Je regrette d'être venu si tôt. Je repasserai. Je voulais seulement avoir le plaisir de lui serrer la main. Je ne veux en rien le troubler dans ses habitudes. » « Du tout. Le commandant sera heureux de vous voir, monsieur. Il descend. Il achève sa barbe. Ça ne sera pas long. » Martin Numa, donc, fit comme s'il allait s'asseoir sur une chaise. Mais il eut soin de ne pas se mettre dans un fauteuil, bien que le domestique lui en eût avancé un, tout en parlant. Le roi des détectives, qui venait de voir partir de la maison voisine une vieille bonne ressemblant étonnamment à la domestique de la bonne rentière au diamant rose, se souvint trop bien du fauteuil qu'à toute force voulait lui faire occuper la brave femme. Rien ne lui disait que les fauteuils de cette maison n'étaient pas les cousins germains de ceux de la bonne rentière. Et l'aventure de la soirée du diamant rose devait le tenir en éveil. Il regarda, selon son habitude, les êtres de cette pièce. C'était une sorte de salon fumoir de vieux militaires. Quelques armes exotiques, de longs fusils arabes, des coutelas kabyles, pendaient accrochés au mur. Dans des cadres, des brevets et sous verre, des décorations. Puis des pipes à divers ateliers, pipes en grand nombre et de divers modèles. La pièce comportait 2 portes, une au fond, donnant sur les appartements, l'autre sur le couloir d'entrée par où était passé Martin Numa. Elle n'avait qu'une croisée qui ouvrait sur la rue. Et Martin Numa put à travers le rideau apercevoir son fidèle Prosper, assis sur le siège de la petite voiture et fumant très paisiblement une cigarette. Le mur en face de la porte d'entrée comportait une cheminée. Ce mur, Martin Numa s'en rendit compte, était le mur mitoyen qui servait également de l'autre côté, à la villa voisine, d'où était sortie l'étrange cuisinière aux allures masculines. Cette cheminée jurait quelque peu avec l'aspect général de la pièce. Tout dans ce salon était simple, quelque peu fruste. Tandis que cette cheminée jouait le grand air, avait des prétentions à copier une des cheminées monumentales du palais de Fontainebleau. Le tablier de cette chemise ornementée et surchargée arrivait à la hauteur du front de Martin Numa. Elle était en marbre, du moins elle semblait en marbre. car Martin Numa, qui de son naturel était excessivement curieux, s'étant approché de cette cheminée, put constater que ce marbre n'était que du stuc, et même en donnant de petits coups d'ongle sur un des ornements, se rendre compte que le dessous était creux ou tout au moins en bois. Quant au fond, Martin Numa vit du premier coup d'œil que ce fond, quoique noirci par les derniers feux qu'on y avait allumés, n'était qu'une porte. C'est par là que communiquaient les deux villas. Par cette cheminée, un homme pouvait facilement passer. Il n'y avait sans doute qu'à presser quelques boutons dont Martin Numa ne fut pas longtemps à découvrir l'emplacement secret. En effet, dans le ton gris donné aux moulures en stuc, en carton-pâte, qui formaient les ornements de cette cheminée monumentale, une trace plus foncée avait été laissée par les doigts des gens. Ils passaient par cette porte secrète. Mais Martin Numa eut seulement l'air de s'intéresser à l'ensemble de cette cheminée et de la regarder au point de vue purement artistique. Il se méfiait et pensait que probablement le capitaine ou d'autres l'épiaient par quelques Judas dissimulés dans la muraille. Puis il prit une chaise. Les chaises sont difficilement truquées. On ne peut, comme les bergères ou autres grands fauteuils, les convertir en pièges à détectives. Cependant, avant de s'asseoir, il s'assura prudemment qu'elle ne renfermait aucun mécanisme suspect et dangereux, et il la plaça près de la croisée, sachant que de ce côté il était impossible de sortir de la muraille, de lui passer un nœud coulant ou de lui donner un coup de poignard dans le dos. Rassuré, prenant son air bon enfant, son visage de peintre de bonne humeur, il attendit le commandant. Celui-ci ne tarda pas à se montrer. Il entra en bougonnant à son habitude et sacrant et jurant comme s'il commandait tout un peloton de recrues. Puis, tendant la main au roi des détectives, « Ah, mon cher monsieur, je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. »« Du tout, » fit Martin Numa. « C'est moi qui dois m'excuser d'être venu vous déranger à pareille heure. »« Mais vous ne me dérangez pas. »« Je suis venu un peu tôt. »« Pas du tout. Moi, un vieux militaire, un sacré dur à cuire, je suis levé avant le jour. » C'est ce que je pensais. Vous me l'avez dit, du reste, quand vous m'avez invité à venir vous voir. Parfaitement. Sans cela, je ne serais venu que bien plus tard. Vous avez très bien fait. Seulement, le matin, quand je n'ai pas à sortir, comme précisément aujourd'hui, il m'arrive de flâner dans mon jardin, de lire des journaux tout en fumant la pipe matinale qui est de beaucoup la meilleure. Il paraît. Et pour moi, une pipe ne va jamais seule, si bien que l'heure arrive et que je suis encore au jardin. Je ne remonte chez moi faire ma barbe que plus tard, trop tard. Voilà tout. Mais je suis bien content de vous voir. » Martin Numa remarqua que le commandant, ce matin, semblait pris par un tic, qu'il ne lui connaissait pas encore, ou du moins qu'il n'avait pas remarqué chez lui. Généralement, ce commandant tiraillait sa barbiche, sa moustache grise, d'un geste commun à tous les vieux militaires. Et ce matin, il ne tirait pas sur la barbiche, sur ses rudes moustaches. Au contraire, il les tapotait doucement, les appuyait sur ses lèvres, vers son menton. « Bon, » pensa Martin Numa, « est-ce qu'il a peur que ses moustaches ne tiennent pas ?» Car il avait maintenant le geste des acteurs qui viennent de se coller des postiches. Mais comme toujours, Martin Numa ne laissa pas voir qu'il s'était aperçu de ce qu'on voulait lui cacher. Il reprit comme si de rien n'était. « Je tenais à venir vous remercier du précieux concours que vous nous avez apporté l'autre jour. » Quand nous avons été victimes de cette inqualifiable agression. « C'est inouï !» s'écria le commandant, tendant le poing. « Conçoit-on pareille aventure? Des bandits dans la forêt de Fontainebleau? Des chenapans s'attaquer à qui? À de paisibles peintres? Jamais chose pareille ne s'est produite. Jamais on n'a vu cela. » Martin Numa reprit. « Votre arrivée a été providentielle, commandant. C'est vous vraiment qui avez provoqué ce désarroi chez nos agresseurs et qui avez été la cause de leur fuite. » « Pas du tout, mille bombes, pas moi !» Martin Numa, qui sans doute avait vu ce qu'il tenait à voir ce matin chez cet homme mystérieux, s'est élevé. « Commandant, je ne veux pas abuser de vos instants. »« Mais non, vous n'abusez pas. Maintenant que je vous ai remercié, je vais vous demander la permission de me retirer. » Le commandant lui prit la main et la garda dans les siennes. Pendant ces quelques secondes, Martin Numa put voir que les mains du commandant étaient singulièrement blanches, et qu'elles avaient les doigts lisses, la peau souple. Jamais commandant de l'âge de celui-ci, ayant vécu comme il le prétendait au grand air, au dur soleil de tous les orients, n'aurait pu conserver, même en prenant de grandes précautions, des mains comme celles-ci. Jusqu'ici, Martin Numa avait toujours vu le commandant dans la forêt, portant des gants, de gros gants de cheval ou des gants de promenade. Jamais il ne lui avait vu les mains nues. C'était la première fois qu'il pouvait les voir ainsi, les toucher. Et Martin Dumas put s'en rendre compte, lui qui avait fait une étude approfondie des mains et du pouce. Les mains du commandant étaient au moins de 20 ans plus jeunes que leur propriétaire. La tête du commandant portait, pour mieux dire, 20 ans de plus que ses mains. Or, comme le commandant Remondin, tout mystérieux, tout énigmatique qu'il était, ne pouvait cependant pas être de la famille des crabes, des homards, qui, quand on leur coupe une patte, la voient repousser quelque temps après. Si les mains du commandant n'avaient pas l'âge de sa tête, c'est donc que sa tête était trop vieille pour ses mains. Donc, en conclusion, les mains étaient vraies, la tête était fausse. Mais de cela, depuis longtemps, le roi des détectives se doutait. Ce matin, il venait d'en acquérir la certitude. Si le commandant avait tant tardé à descendre, c'est que, surpris par la venue intempestive, inattendue de Martin Dumas, il n'avait pas encore sa tête suffisamment préparée. Sans être maquillé comme un acteur, il ne pouvait descendre, se montrer à celui qui venait voir le commandant Remondin. Mais qui était cet homme? Qui? Pourquoi entrait-il ainsi dans la vie du roi des détectives? Quel but poursuivait-il? Se poser ces questions pour Martin Dumas, c'était aussitôt vouloir les résoudre. Mais, homme méticuleux, précis, scrupuleux, il ne voulait pas s'embarquer à la légère. Celui qui se cachait sous le personnage du commandant Remondin, il ne le voyait pas encore avec certitude, et il lui était impossible, pour le moment du moins, de se donner à lui-même l'assurance qu'il ne se trompait pas en prononçant un nom. Or, ce n'était pas le moment de commettre la moindre erreur. Estimant sans doute avoir recueilli suffisamment de documents sur la villa du commandant et celui qui l'habitait, sur l'immeuble voisin, Martin Dumas voulut définitivement prendre congé. Il allait se retirer quand le commandant lui dit « À propos, mon cher peintre, je ne vous ai pas montré les chefs-d'œuvre de mon sacripant de neveu. » Martin Dumas, en effet, avait remarqué l'absence totale de tableaux dans ce salon. Il fallait vraiment que ce sacripant de neveu eût un talent qui déplût au suprême degré à cet oncle rouchonnant et anti-artistique. « Oui, reprit le commandant, comme les peintures de mon sacripant de neveu me donnent sur les nerfs, je les ai autant que possible enlevées de ma vue. » Il ajouta, « D'ailleurs, vous allez voir ça. Je ne serais pas fâché de connaître votre opinion. Venez avec moi. » Martin Dumas suivit le commandant. « J'ai fait reléguer les tableaux au grenier. » Le roi des détectives se demandait pourquoi le commandant tenait à lui montrer ses peintures et pourquoi il les gardait là-haut, dans le grenier. Il suivit donc le commandant. La villa ne comportait que 2 étages et le grenier. Enfin, on arriva au grenier. Il s'étendait sur toute la longueur et la largeur de la villa, formant un vaste hall, sous la toiture que soutenaient d'énormes poutres en bois. Martin Dumas vit que ce grenier était bien encombré d'objets de toutes sortes et des plus inattendus. Il y avait quantité de cordes, de toutes grosseurs, les unes lisses, les autres avec des nœuds et d'autres formant l'échelle. « Des agrès de gymnastique, » fit le commandant, suivant le regard du roi des détectives, qui s'arrêtait sur ces cordes singulières. « Nous avons trouvé ça ici quand j'ai acheté la villa. » Les cordes parurent à Martin Dumas bien neuves et joliment entretenues pour de vulgaires agrès de gymnase dont on s'est débarrassé dans un coin. Un peu plus loin, quelques chaînes d'acier. L'une d'elles, à maillons longs comme celle qui servait autrefois pour les bagnards, et formait une sorte de prison flexible et incrochetable autour du corps du malheureux. « Chaîne de bateau, » fit le commandant. En même temps, il envoyait un formidable coup de pied à une sorte de meuble en chaîne, ayant l'aspect d'une colonne, d'une horloge de campagne et dont Martin Dumas, malgré sa perspicacité, ne put pas comprendre la destination véritable. Cependant, le commandant tout à coup se montra extrêmement nerveux. Il semblait furieux de voir ce qui s'étalait ainsi dans le grenier et absolument vexé d'y avoir conduit Martin Dumas. Le roi des détectives, précisément, venait de jeter les yeux sur une caisse entr'ouverte. Les panneaux de la caisse, qui avaient voyagé, portaient divers bulletins de gare, de consignes et tracés au feu ces 2 mots « Fragile, chocolat ». Mais Martin Dumas aperçut par le panneau soulevé, rangé très méthodiquement les uns sur les autres, des paquets enveloppés de papier huilé, ayant apparence de charcuterie et ne rappelant rien des tablettes de chocolat. « De la dynamite, » pensa Martin Dumas. « Vraiment, ce grenier se compose de choses étonnantes et détonnantes. » Le commandant l'entraîna vivement. Martin Dumas, cependant, n'avançait qu'avec précaution, méfiance. Sans doute, il se disait que rien ici, aujourd'hui, ne pouvait être tenté contre lui. Il avait prévenu, en arrivant brusquement, toute préparation criminelle. D'ailleurs, Prosper était dehors et viendrait à son secours ou donnerait l'alarme. Cependant, il se méfiait toujours. Mais cette brusquerie soudaine du commandant n'avait d'autre but que de l'empêcher de voir quelque chose. « Voilà les tableaux, » fit le grognard. « Voyez. » Il désigna, posé à terre, appuyé contre le mur, quelques toiles de diverses grandeurs. Martin Numa s'en approcha et les mit en place pour mieux les regarder. « Voyez-vous assez clair ?» lui demanda le commandant. « Suffisamment, ce grenier est très clair. » Puis il parut s'absorber dans l'examen des toiles. « Eh, mais ce n'est pas si mauvais que cela » fit-il au bout d'un moment. « Pas mauvais du tout, vous trouvez. Évidemment, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre et les Manet, les Pissarro, les Degas ne doivent pas trembler pour leur gloire. Mais enfin, ces toiles donnent des espérances. Ah, on y sent une bonne volonté courageuse, mais inexpérimentée. Votre neveu est tout jeune, 30 ans. Ah, eh bien, sa peinture révèle un homme bien moins âgé. Peut-être a-t-il commencé très tard. Assez tard, en effet. C'est cela, fit Martin Numa, imperturbable. On le voit d'ailleurs facilement. Il a aussi plusieurs fois changé de manière. Où voyez-vous cela? Voilà plusieurs toiles qui ne semblent pas de la même main. Ça peut se reconnaître, cela. Absolument, comme quand on voit des écritures, on reconnaît si c'est la même main qui les a tracées. Ah! Tous ces tableaux qui, à première vue, semblent du même auteur parce qu'ils se ressemblent et comportent le même style, la même tendance, parce que le sujet est à peu près le même, sont de mains très différentes. Le commandant éclata. « Alors mon sacripant de neveu n'a pas même fait l'étoile ? Je ne dis pas cela. Il en demande à des camarades. Il en a même acheté dans quelques bazars. »« Pardon, commandant, je vous ai dit que votre neveu se cherchait, qu'il n'a pu encore établir sa personnalité. » Le commandant, exalté, poursuivit. « Le sacripant, le scélérat, il se moque de moi. » »« Sous prétexte que je n'y entends rien en peinture, ah l'animal, je lui ferai voir qu'on ne se moque pas si facilement de sa vieille baderne d'oncle. » Et repoussant l'étoile du pied, il ajouta « Je vous remercie, mon cher ami, de m'avoir ouvert les yeux sur ce point. » Martin Numa essaya de plaider la cause du sacripant de neveu. Le commandant ne voulut plus rien entendre. Il fit redescendre son hôte et, toujours grommelant, tonitruant, il le reconduisit jusqu'à la porte. Il s'avança même sur le trottoir pour serrer la main de Prosper. Peu après, les deux peintres partaient. Et le commandant rentrait dans sa villa qui l'emplissait de cris de colère, de tonnerre, de fureur. « Je n'ai pas perdu ma matinée, » dit Martin Numa à Prosper. « J'ai surpris mon homme, et j'ai pu voir, apprendre bien des choses qui nous serviront plus tard. »